Une nouvelle étape dans une carrière dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est riche, vraiment très riche, Julien.
Mesdames, messieurs, bonsoir, merci d'être avec nous.
Une vie à mêler politique, culture et divertissement, un ovni médiatique.
En 15 jours, je me dis, je vais faire 5% des voix. Ouais. J'ai fait 10.
Oui, c'est
pas mal.
Ça vous change, vous qui avez toujours été devant la caméra?
Oui, forcément, c'est un exercice très différent.
Est-ce que vous venez vous faire les ongles, comme on dit ici Est-ce que c'est un terrain d'expérience pour vous, cette candidature?
Disons qu'il y a un plaisir plus égoïste à l'antenne et peut-être un plaisir plus altruiste à diriger. Voilà. Puis on prend plus de coups quand on dirige que quand on est à l'antenne, malgré tout.
Vertigo de 16h30 à 18h sur la première.
Bonjour Julien Sansonnance.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Bien, et vous?
Écoutez, ça va pas mal. Donc, je le rappelle, vous êtes un ex-popiste.
Oui.
Vous avez récupéré un siège au Grand Conseil vaudois sous l'étiquette La Gauche.
La Gauche, voilà.
Voilà.
Donc, et Solidarité.
Exactement. Et vous nous proposez ce polar, Les Ordres de Grandeur. C'est publié aux éditions de l'Air. J'en resitue brièvement le contexte. La trame, c'est l'histoire d'Alexis Roch, qui est le présentateur vedette du journal télévisé de cette chaîne d'information privée en continu intitulée Swisscast, qui va se retrouver mêlé à une sordide affaire de mœurs, puisque d'une part, on va retrouver des photos à caractère pédophile sur son ordinateur, et d'autre part, on va faire le lien avec une agression sordide qui a eu lieu une vingtaine d'années auparavant et à laquelle il aurait été mêlé, je n'en dis pas plus. C'est un livre qui mêle politique et médias. Mmh. Dans ce livre-là, on y retrouve cette fameuse Sainte-Alliance entre la politique et les médias. On y retrouve aussi des clins d'œil avec des noms que l'on peut apparenter à certains noms très connus, et pas seulement de la rédaction, mais aussi du public et de tout le monde. On y retrouve un politicien à Katogan, un chien qui s'appelle comme le chien de François Mitterrand, Baltique. On y trouve un spin doctor, Marco Camino. On y trouve, bref, un petit peu tout ce qu'on connaît dans notre paysage politique et audiovisuel. Visuel, Julien Sansonnance. Quel a été le point de départ de ce polar?
Oui, c'est vrai que la Suisse est un village, hein, et puis il y a un certain plaisir, effectivement, de connaître comme ça un petit peu tout le monde.
Les arcanes.
Les arcanes, et puis voilà, on a nos petits people à nous, on a nos politiciens à nous, et puis c'est vrai que tout ça est un petit milieu qui se connaît, donc il y a un certain plaisir, finalement, à décrire ce milieu-là, qui est parfois décrit au cinéma, qui est parfois décrit dans le roman. Et en Suisse, ça n'avait pas tellement été fait. Disons, c'est effectivement un polar, mais qui est aussi l'occasion, disons, le prétexte à parler d'un milieu social ni plus ni moins intéressant qu'un autre.
Est-ce que le polar, c'est le lieu de l'excès? Je vous pose la question parce qu'au fond, vous décrivez un milieu, nous y compris RTS par ailleurs, dans lequel nous ne reconnaissons absolument pas, bien sûr. Nous ne sommes pas tous que d'atroces et infâmes gauchistes, je tiens à préciser. Mais est-ce que le polar, c'est le lieu de l'excès? C'est-à-dire que lorsqu'on est un homme de pouvoir, fut-il médiatique ou politique, fatalement, on s'autorise des choses que le commun des mortels ne s'autorise pas.
Je pense que le polar est devenu effectivement un genre qui permet d'aller beaucoup plus loin, finalement, que la seule enquête, hein, comme on l'a connu, du polar à l'ancienne, finalement, avec le meurtre, et puis on suivait l'inspecteur. Je crois que le polar est passé à autre chose, et c'est un genre qui me plaît beaucoup parce qu'il a à la fois cette intrigue finalement qui joue comme un fil rouge, hein, autour soit d'un meurtre, soit d'un viol, et puis ça permet effectivement d'élargir et de parler de beaucoup d'autres choses, de parler, de faire un petit peu de satire comme j'ai pu le faire dans certaines pages de ce livre. Donc je crois que vraiment c'est un genre, son succès vient aussi de cette ouverture finalement, de cette créativité qui permet, quoi. Et puis on peut jouer avec les codes aussi, j'ai essayé d'en jouer. C'est un polar qui se prend pas trop au sérieux, mais avec, je crois, quand même une enquête assez solide finalement.
Et avec du sexe. Le sexe est omniprésent instrument, il en faut bien sûr, mais en particulier dans celui-ci, Julien Sansonnance, parce qu'aussi c'est aussi un marqueur social, le sexe, dans ce livre. Expliquez-nous.
Oui, absolument. J'ai un petit peu joué avec les représentations sociales du milieu, je dirais, entre guillemets, représentations qui sont plus ou moins exactes. Hein. Je ne le sais pas. Je peux l'imaginer. Disons, il y a une part de réel et une part de fantasme dans cette description du milieu. Mais c'est vrai que j'ai pris un certain plaisir finalement à grossir un petit peu le trait avec des présentateurs qui sont à la fois cocaïnomanes et partouzeurs, avec effectivement des soirées qui se font dans des galeries d'art.
C'est notre quotidien, je le confesse, volontiers, bien sûr.
J'en doute pas une seconde. Donc voilà, il y a un plaisir comme ça, un petit peu de la caricature. C'est aussi finalement une petite revanche. Le polar est un genre très populaire, un genre populaire par excellence, parce qu'il permet cette revanche finalement des petits sur les puissants. Hein, ce plaisir finalement, le maître le faisait beaucoup, maître du polar français. C'est cette revanche finalement du populaire sur les puissants dont on se moque, dont on expose finalement les travers, la vie. Plus ou moins dissolue. Donc ce plaisir de la caricature, il est là aussi.
Alors, il y a aussi un côté moral dans le polar. Vous évoquez le polar à l'ancienne, Julien Sansonnens. Il y avait toujours cette phrase, au fond, qu'on peut répéter à l'envi, le crime ne paie pas. Ça, c'est vraiment alors le socle sur lequel on construit le polar. Oui. Dans le polar à l'ancienne, effectivement, ce sont plutôt les petites gens qui tentent de s'en sortir face aux puissants. Ça, on le comprend bien. Mais votre polar, au fond, se situe pas vraiment à ce niveau-là, moi je trouve, et se situe plutôt dans la couche vraiment très supérieure de la société. On a affaire. Alors, il y a effectivement une question posée dans le livre qui a trait à des personnes, disons, moins haut placées dans la société. Je peux pas en dire plus, c'est un peu gênant parce que sinon on dévoile beaucoup trop de choses, mais dans le fond, vous vous situez dans des sphères très élevées.
Il y a une dimension sociale et entre guillemets sociologique, c'est un petit peu un grand mot, mais je crois que le polar, le roman d'une manière générale doit apprendre quelque chose, doit renseigner sur quelque chose. Hein. Souvent, on demande à un écrivain, qu'est-ce que c'est qu'un bon polar ? Et c'est vrai que moi, j'ai souvent entendu une réponse qui me satisfait tout à fait. C'est un livre dans lequel on apprend quelque chose. On apprend soit sur un milieu, soit des faits, ou on apprend sur l'humain, qui est vraiment la matière première du roman d'une manière générale. Donc, j'ai eu envie effectivement d'exposer un petit peu ce milieu que je connais un petit peu par le tout petit bout de la lorgnette, vraiment en regardant un petit peu par le trou de serrure, par mon activité très modeste de politicien, d'avoir côtoyé un petit peu les médias, et puis aussi un intérêt par la sociologie des médias. J'ai fait un master à l'Uni de Lausanne dans cette discipline, qui m'a permis de la connaître de manière théorique, je dirais.
Oui.
Et puis à partir de ce matériau, à la fois empirique et théorique, il y a une bonne couche de fiction, parce que ça reste une fiction quand même. J'ai aucune prétention à donner de leçons. J'ai essayé de m'en prémunir au maximum. C'est le côté moral peut-être. Des fois on me dit mais c'est un petit peu immoral. Les premières scènes peuvent parfois choquer parce qu'il y a presque un plaisir dans la description de scènes très dures, effectivement,
c'est dit,
une certaine esthétique
de la
violence et de la cruauté, de la méchanceté. Et voilà, j'ai essayé d'en jouer, effectivement.
Il y a, on va dire, 40 ou 50 ans, le polar ne proposait pas ces scènes-là. C'était plutôt dans les livres qu'on vendait sous le manteau. Là, aujourd'hui, on sent que, au fond, si on veut décrire la violence de la société dans laquelle nous vivons en ce moment, on ne peut pas passer à côté de descriptions très dures, il faut bien le dire.
Oui. Probablement inspiré par le cinéma, par un certain cinéma, certainement une certaine esthétique avec des films peut-être à la Tarantino qu'on a tous vu, qui font partie un peu de nos références.
Ou certains films, notamment un qui avait fait scandale à Cannes avec Monica Bellucci, le film s'ouvrait sur un viol qui durait 20 minutes, enfin c'était insoutenable. Quoi.
Absolument, j'ai d'ailleurs pensé à cette scène, effectivement. Donc je crois que le public, effectivement, est capable et je veux pas dire Satan, mais je pense est habitué à une certaine forme de violence qui peut être esthétisée, effectivement. Il y a aussi, de manière un peu plus concrète, la volonté finalement d'accrocher le lecteur avec des scènes fortes. Voilà, je pense que ça peut être une...
On va se tourner, si vous voulez bien, Julien Sansonnens, du côté de la place centrale à Lausanne, prendre le pouls de cœur à cœur. Opération qui va se terminer, je vous rappelle, ce soir à 20h. On a déjà annoncé quelques chiffres, un peu plus de 800 000 francs ont été récoltés. L'objectif, je vous le redonne, c'est 1 million. Il reste encore un peu moins, d'après mes souvenirs, un peu moins de 200 000 francs à trouver pour atteindre les objectifs de cœur à cœur. Alors pour savoir où on en est maintenant, je vous propose tout de suite de nous rendre dans le cube de cœur à cœur. C'est Place Centrale à Lausanne et on retrouve Jonas Schneider.
Et Pierre-Philippe Kader. Bonjour Pierre-Philippe.
Bonjour Jonas.
Comment ça va ?
Mais ça va très bien. Et vous, où en êtes-vous ? Je vous regardais cette nuit, je l'avoue.
Ah bon ?
Oui, oui.
Bah dis donc, je pensais que vous aviez une vie plus remplie, Pierre-Philippe Canet. Ouais.
Elle est très remplie et je m'autorise des incartades de temps en temps.
Très bien.
Moi, c'était un grand plaisir de voir Philippe Robin porter un masque de raton laveur, d'écouter Rammstein sur Option Musique. C'était un grand moment. Dans Police, Satterley, bondir à travers ce cube en hurlant en allemand des chansons qu'elle connaît par cœur. C'était extraordinaire.
Vous avez vu que le début de soirée, alors.
Mais c'est ça, j'ai...
Oui.
Je me rappelle pas de cette anecdote. J'ai chanté.
Allons, Pauline.
Bon, nous sommes en bonne compagnie, Pierre-Philippe Kader. Nous avons Nicolas Vadimov. Vous sentez la fatigue, Pierre-Philippe?
Je la sens bien. Vous êtes avec Vadimov, Nicolas Vadimov,
avec nous, le réalisateur, bien sûr, et Annick Jean-Méret, la cuisinière à TV.
Très bien. Nicolas Vadimov, dont le dernier documentaire a consacré à Jean de Sigler, qui a traqué, on peut le dire, Nicolas Vadimov, vous avez traqué, je dis pas la pauvreté, mais enfin la précarité, vous la connaissez, vous?
Bah oui, je la connais. Je la connais parce que j'ai l'impression que qu'elle est autour de nous tout le temps, et puis qu'il faut vraiment avoir des œillères et vouloir être aveugle pour ne pas la voir. Mm-hmm. Donc j'ai pas l'impression de l'avoir traqué particulièrement. J'ai juste, je pense, ouvert les yeux comme tout le monde devrait le faire.
Tout simplement. Mm-hmm. Ouais.
Une opération. Pas seulement ces temps de fête.
Oui, bien sûr. Mais bien sûr. Il se trouve que là, voilà, Cœur à cœur va bientôt toucher à sa fin.
Dans 3 heures.
Dans 3 heures, mm-hmm. Exactement. Je me demandais tout à l'heure, Jonas, où on en était des dons. Puisqu'il y a un chiffre qui est sorti, un peu plus de 800 000 francs. Oui. Il reste encore quelques heures pour atteindre le million. Où en sommes-nous maintenant?
Alors, nous n'avons pas de chiffre en temps réel. Tout ce qu'on peut regarder, c'est les yeux des standardistes. Et là, ils ont l'air fatigués, heureux et fatigués. Et donc, je pense qu'ils ont répondu à beaucoup, beaucoup d'appels. Et je pense qu'on va pouvoir annoncer le million. Mais je ne veux pas trop m'avancer.
On verra tout vraiment, à l'heure.
De toute façon, c'est lui qui arrondit si jamais ça, on n'y arrive pas.
Il y a autre chose. Non seulement il y a les yeux des standardistes, mais il y a aussi les dons que l'on donne ici, place centrale à Lausanne, et c'est encore plus fort que les jours précédents. J'ai l'impression que là, il y a plus on avance dans l'après-midi, c'est et plus sûr. Il y a de dons dans la cagnotte à côté de nous. Là.
C'est sûr. Ils sont comptés, ceux-ci?
Bien
ils
sûr.
Comptés, au fur et à mesure.
Oui, ils seront comptés.
Là, les 670 qui viennent de rentrer.
Voilà.
On va compter, bien sûr. On fera le point tout à l'heure.
Et je rappelle qu'on peut vous voir évidemment en streaming, en direct sur Internet, sur le site rts.ch.
C'est de plus en plus inquiétant d'ailleurs.
Oui, vous me faites peur.
Oui, on devient des zombies.
C'est pas des valises que vous avez cédées. Des cantines, des mâles diplomatiques.
Exact.
N'en rajoutez pas, je vous en prie.
En tout cas, c'est du bagage de soute, ça c'est sûr.
On n'est pas d'accord là-dessus. Ça va en soute et pas ailleurs.
Tout de suite. Annick Jean-Méret va vous donner le numéro pour terminer, si vous êtes d'accord, Pierre-Philippe.
Je suis d'accord, allez-y, Annick Jean-Méret.
0800 87 07 07.
Exactement.
C'est tout parfait. Juste. Et puis n'hésitez pas à passer, place centrale. Si vous avez quelques monnaies sur vous, il y a moyen de donner. Absolument. Tout simplement. Ouais, merci beaucoup. Courage à vous et encore bravo.
Merci.
On vous embrasse, Pierre-Philippe.
À bientôt. Et je reviens vers vous, Julien Sansonnance. Je vous rappelle que vous qui nous écoutez, que nous sommes ensemble pour parler avec Julien Sansonnance de son polar, Les Ordres de Grandeur. On a évoqué des gens très très riches. Là, on a affaire à des gens qui sont dans la précarité, qu'on essaie d'aider avec une opération comme celle-ci. Une opération, je rappelle, cœur à cœur, qui se termine tout à l'heure sur les ondes d'Options Musique, mais également sur Internet, sur le rts.ch. Une opération comme celle-ci, c'est dans vos cordes, Julien Sansonnance.
Oui, absolument. C'est vrai qu'en Suisse, il y a une certaine difficulté à montrer cette pauvreté qui existe. Hein. On le sait pas assez probablement. Un million de pauvres en Suisse, c'est quelque chose de tout à fait impressionnant quand on connaît la richesse effectivement de ce pays. Alors, on l'a vu sur le débat, le débat sur la pauvreté, les personnes qui demandent une pièce dans la rue. Hein, il s'agissait effectivement de cacher finalement cette misère avec des arguments d'ordre touristique. Hein,
cacher ce sein que l'on ne saurait voir.
Ouais, effectivement. Voilà, il semblerait que dans la ville olympique, la ville du CIO, ville touristique par excellence, on n'aime pas trop montrer ce genre de réalité de la Suisse. Alors voilà, si effectivement une opération comme celle-là permet de mettre en avant une certaine précarité, et puis une précarité à la fois financière mais sociale et psychologique aussi, qui s'accompagne toujours d'une détresse. Une détresse psychologique dont il faut parler aussi.
Oui, il y a eu beaucoup de témoignages sur l'antenne d'Options Musique dans le cadre de Cœur à Cœur, de gens qui étaient vraiment dans une très très grande détresse, alors certes financière, mais aussi de ce fait une détresse sociale et psychologique, et ça contribue encore plus à fragiliser celles et ceux qui sont dans cette situation.
Ouais, surtout à Noël, c'est vraiment une période où voilà, ça fait mal quoi.
C'est au carré à Noël. Est-ce que le roman, comme l'action politique, peut faire prendre conscience de certaines situations, selon vous, Julien Sansonnance?
Oui, je pense qu'il le peut, effectivement. J'essaye de bien distinguer les deux casquettes. Hein. C'est d'ailleurs pas toujours facile. Hein. En politique, on me demande si je suis là pour vendre mes livres, et puis dans mes livres, on me demande si je cherche à me faire élire. Ouais. Donc c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup réfléchi, et puis il va de toute façon falloir faire un choix un jour ou l'autre, un choix qui est déjà fait d'ailleurs. Mais
c'est-à-dire.
C'est-à-dire que je vais terminer mon mandat tranquillement au Grand Conseil et puis probablement me consacrer exclusivement à la littérature et puis exclusivement avec ma famille bien sûr et le travail, mais je pense que là la politique disons c'est voilà quelque chose qui est assez largement encore devant moi pour quelques mois et puis plus après probablement pendant quelques temps.
La politique la culture est plus un terrain d'action pour vous que la politique maintenant?
Oui, je crois que vraiment, les deux sont passionnants, les deux sont fascinants, c'est tout à fait différent. Évidemment, ça requiert d'autres, ça met en jeu peut-être d'autres choses, d'autres types de raisonnements. Mais je sais pas ce qui est supérieur à l'autre, mais effectivement, maintenant c'est beaucoup la littérature qui m'intéresse, et puis c'est quelque chose qui est naturellement très exigeant, puisqu'il faut. Il faut d'abord écrire, mais il faut surtout lire. Je pense qu'on écrit difficilement si on ne lit pas beaucoup. Et puis, c'est vrai que la lecture, c'est quand même une activité qui prend un certain temps. Donc, à moins de tout faire et de tout faire mal, je préfère faire peut-être un peu moins de choses et faire un petit peu mieux, je le souhaite.
C'est l'avantage des transports en commun, c'est que ça laisse Absolument. Le temps de lire.
Absolument. Et puis, bientôt, les voitures se conduiront toutes seules. Donc, je me réjouis de lire des romans en allant au travail.
Je rappelle que ce livre s'appelle Les Ordres de Grandeur, que c'est un polar, Les Ordres de Grandeur, et qu'il est publié aux éditions de l'Est. Vers quel type d'auteur de polar vont vos préférences, Julien Sansonnant?
De polar, enfin disons moi, c'est vrai que j'aime beaucoup la littérature française d'une manière générale, et puis un auteur comme Michel Houellebecq, c'est quelqu'un qui a une référence pour moi, ouais. qui est polémique, ce qui est plutôt à son avantage à mon avis. C'est quelqu'un qui a une vision sociologique et une espèce de prémonition comme ça, ou peut-être, je sais pas si c'est de la prémonition en sens commercial très aiguisé, mais qui sent comme ça, qui sent les enjeux, hein, ce qu'il faut pour faire de la littérature, je crois, c'est pas interdit. Sinon c'est vrai que la plupart des romans qui paraissent aux éditions de Minuit me semblent tout à fait admirables. Il y a une patte Minuit comme ça avec des Jean Echenot, c'est des auteurs que j'admire parce qu'ils ont à la fois leur singularité et puis une ligne comme ça, une ligne Minuit. C'est une écriture qui est en apparence toute simple, blanche, relativement neutre, mais qui est en réalité très travaillée, très précise. Il n'y a pas de fioritures. Alors pour le coup, il n'y a pas de longueur. C'est parfois des romans très courts. C'est une maison d'édition que j'apprécie beaucoup. Et puis en Suisse, il se fait aussi naturellement beaucoup de très bonnes choses, que ce soit aux éditions de l'Air ou ailleurs. Je crois que c'est vraiment très très dynamique. Hein, on le sait. Peut-être il y a peut-être trop d'ailleurs de manifestations. C'est tout un débat sur ces très nombreuses manifestations salons littéraires. Mm-hmm. Peut-être que la qualité est pas toujours au rendez-vous parce que encore une fois, on peut si on fait trop, on le fait pas forcément très bien. Je constate avec beaucoup d'autres qu'il y a un renouveau intéressant de la littérature romande. Peut-être que effectivement, la figure de Chaissé qui était comme ça, qui pouvait un petit peu impressionner.
Tout le monde était un peu à l'ombre de Chaissé.
Tout le monde était un petit peu à l'ombre, peut-être, effectivement. Et puis, il y a toute une nouvelle génération. Mais pas forcément, d'ailleurs, faut pas tomber dans le jeunisme. Il y a des gens des gens plus âgés qui font des choses aussi très intéressantes, je crois. Faut pas non plus tomber dans cette idée, qu'il y aurait une nouvelle génération comme ça de vingtaine, trentaine, qui serait forcément bon parce qu'ils sont jeunes. Non, je crois que c'est pas le cas. Je crois qu'il y a aussi des gens de 80 ans qui font des choses extraordinaires en Suisse, faut le dire.
Et des auteurs de polar aussi, qui ont cet âge-là, qui font beaucoup de choses en Suisse. Oui. La Suisse est une terre de polar désormais, et de plus en plus.
Oui. Il semble que ce soit un genre qui rencontre effectivement un certain succès. Je crois que le public aime bien ça. Moi, je l'explique par ce fait qu'à la fois, c'est normalement pas ennuyeux. Certains types de littérature peut être parfois un petit peu ennuyeuse.
Oui, des polars ratés aussi.
Il y a des polars ratés. Normalement, il ne devrait pas passer le filtre de l'édition, effectivement, mais il en sort quand même, bien sûr. Et puis, peut-être qu'il est raté pour moi et puis très réussi pour un autre. Oui. Hein. Mais je crois que c'est un genre effectivement qui permet à la fois le plaisir pur du suspense, de l'angoisse, etc., le page turner, on a envie de savoir la suite, mais qui permet aussi de faire autre chose, d'être prétexte finalement pour parler de bien d'autres choses, de bien d'autres milieux, et je pense que c'est dans cette alchimie là que le succès du polar réside.
Vertigo, Pierre-Philippe Cader.
avec Julien Sansonnance pour parler donc de ce roman Les Ordres de Grandeur, publié aux éditions de l'Air. Est-ce que le polar, pour vous, Julien Sansonnance, on connaît votre inclination sociale, je rappelle que vous êtes un ancien popiste, vous êtes toujours au Grand Conseil Vaudois pour quelques temps encore, vous nous l'avez dit tout à l'heure, sous l'étiquette La Gauche. Le polar, c'est aussi une façon de parler d'une situation sociale, d'un état social, c'est une façon de dire certaines choses que peut-être vous aviez envie de dire d'une façon différente.
Certainement, il y a une tradition soit du polar, du roman noir, de romans qui sont ancrés effectivement dans la société, dans le social, hein, avec cette figure souvent de l'inspecteur qui lui-même confronté à tout un ensemble de problèmes à la fois sociaux et personnels. Maintenant, encore une fois, j'essaie de me garder de faire vraiment de la politique dans mes livres et de chercher à faire passer des idées. Je crois que
Allons.
Non, mais quand même. Alors, j'essaie de m'en garder au maximum. Peut-être que ça sue un petit peu par quelques pores, mais voilà, je crois que les livres, personnellement...
Il n'y a pas de regard d'un inspecteur sur cette société qui va très mal et qui en tire des conclusions en disant « Ah vraiment, tout va mal, tout est mal pensé, les riches sont des salauds, les pauvres sont des gens admirables. » Enfin, il n'y a pas ça, effectivement, dans son roman.
Il y a quand même quelques
saillies.
Évidemment, on ne peut pas complètement... annuler, disons, ces opinions, ces opinions politiques ou ces opinions sociales. Mais personnellement, les romans qui cherchent à me conduire vers une certaine pensée ou certaines façons de voir les choses ont plutôt tendance à m'ennuyer. Je pense qu'il faut bien distinguer les livres à thèse, les essais qui sont tout à fait, c'est un genre évidemment tout à fait noble, mais c'est pas le roman, c'est pas la fiction. Oui. Voilà.
Alors vous dites quand même quelque chose, vous le disiez tout à l'heure, ça transpire un petit peu quand même de temps en temps, notamment par rapport à l'un des personnages de ce roman qui est un politicien très à droite qui porte un catogan. on le retrouve à un moment donné dans le livre.
Un clin d'œil, effectivement.
Oui, c'est un clin d'œil, évidemment. Et ça dit aussi du regard que vous pouvez porter sur certains engagements politiques, puisque vous lui faites dire « Moi, j'ai choisi la xénophobie comme d'autres investissent dans un portefeuille d'action. C'était un pari sur l'avenir, une opportunité à saisir. »
Oui, alors c'est un petit clin d'œil que j'ai fait à mon ami Bastien Fournier qui a mis en scène effectivement l'assassinat de Rudolf Schumacher pour ceux qui l'auraient lu. Voilà, mis à part ça, effectivement, c'est un roman qui est très cynique, je crois, volontairement. Il y a un plaisir du cynisme. Et puis effectivement, voilà, j'ai montré ce personnage comme effectivement faisant son fonds de commerce, pas très original, disons, mais je crois qu'on peut aussi dire effectivement que c'est quelqu'un qui sait se saisir avec une certaine maestria, même s'il se fait un petit peu taper sur les doigts de sujets les plus démagos et les plus il y a un opportunisme, disons, qui fait aussi partie finalement des compétences professionnelles du bon politicien. Donc voilà, je les ai simplement exposés avec un petit clin d'œil.
Alors vous le citez, lui, effectivement, clin d'œil évidemment, mais est-ce que ce genre de comportement, vous l'avez rencontré fréquemment chez les politiciens que vous avez croisés ou que vous croisez encore?
Ni plus ni moins que n'importe quel électeur ou n'importe quelle personne qui s'intéresse un petit peu à la...
Mais est-ce que vous auriez pu dire, par exemple, d'une personnalité de gauche, moi je me suis lancé de ce côté-là de l'arbre politique parce que j'ai vu une opportunité à saisir et tenir un discours social qui m'amènerait au plus haut sommet?
Je crois qu'il n'y a que Ségolène Royal qui a tenu ce discours-là, me semble-t-il. Je crois qu'elle avait dit qu'en sortant effectivement d'une haute école, elle avait dû choisir entre la gauche et la droite, et puis que le climat était plutôt propice à la gauche à l'époque. Mais non, évidemment que personne ne va le dire, en tout cas personne ne me l'a dit, et je serais surpris effectivement que les gens le disent comme ça. Maintenant, je pense que quelqu'un qui fonde un parti politique comme le MCG, par exemple, je prends un exemple comme ça, doit sentir effectivement qu'il y a un terrain à occuper. C'est-à-dire qu'on peut faire une analyse quasiment scientifique et rationnel.
C'est le but de la politique. Hein.
Mais c'est absolument, je crois que c'est, disons, le but de la politique, oui. C'est pas interdit d'avoir un certain sens à la fois du marketing,
aux préoccupations de certaines personnes.
Mais je crois que c'est une compétence. On n'est pas hors sol, disons. Il faut sentir, effectivement. On peut être à la fois très soucieux de défendre des points de vue et sentir le coup politique. Quelqu'un comme Joseph Ziziadis, qui est quelqu'un que j'admire par ailleurs, a quand même construit sa carrière politique qu'il a menée jusqu'au Conseil d'État sur une capacité à sentir le bon coup politique qui lui a fait finalement acquérir une stature politique qui était sans doute beaucoup plus grande que son électorat réel. Quoi. Je veux dire, l'électorat popiste dans le canton de Vaud, c'est pas énorme, ça suffit pas à pousser au Conseil d'État. Mais quand on a comme ça le flair et la capacité à sentir un petit peu les coups, à les mettre en scène, à utiliser les médias aussi, c'est un grand spécialiste comme certains politiciens français, mais en Suisse on en a pas tant que ça finalement, des Ziziadis qui savent comme ça se mettre en scène, comme quand il avait déménagé à Obwald, ce qui avait beaucoup marqué. y a un côté un petit peu clownesque comme ça, mais n'empêche qu'il a gagné au tribunal fédéral. Et puis, on a parlé de cette histoire dans toute la Suisse, voire dans toute l'Europe. Et ben voilà.
Donc, ça contribue à faire la notoriété, la réputation du politique.
Ouais, effectivement, tout à fait.
Le fait que vous, vous quittiez le pop, que vous quittiez la politique dans quelques temps, c'est aussi pour vous une manière de couper réellement les ponts avec ce milieu, de vous sentir plus libre peut-être pour vos prochains livres?
Il y a un petit peu de ça, effectivement. C'est aussi pour ça que j'ai situé l'intrigue à Genève et pas à Lausanne, hein, même si c'est un peu une espèce de mélange un petit peu fictionnel de ces deux univers. Mais je voulais pas être trop proche, effectivement, de ce milieu que je connais et puis que je fréquente. Et puis, il s'agit pas de cracher dans la soupe non plus. Je dirais, il s'agit de respecter aussi les institutions, les gens qui font de la politique, ce qui n'empêche pas la critique. Mais oui, il y a une volonté de retrouver une certaine liberté. Et puis, à titre tout à fait personnel, l'implication dans un parti commence à me poser un certain nombre de problèmes, parce que je pense qu'elle était tout à fait pertinente quand j'étais à l'université, quand c'était une période peut-être plus exaltée, comme ça, il y a un certain romantisme, le mythe de la révolution, ce genre de choses m'a beaucoup parlé. Et puis maintenant que je suis devenu bientôt un vieux con,
vous avez quel âge?
38.
Ah bah voilà. Ah bah
ouais. Voilà. je suis peut-être devenu un tout petit peu plus réaliste, sans renier les fondamentaux, mais disons la forme de parti qui en sert quand même. Je dois dire, quand on en sort, il y a quand même une espèce de bouffée d'air frais. Ça fait du bien aussi de retrouver finalement toute sa liberté. Même si il faut aussi des cadres, j'entends, on peut pas partir n'importe comment, etc. Donc moi, j'apprécie cette liberté, effectivement, et j'aurais de la peine à me remettre pour l'instant dans un parti politique.
Les médias comme tremplin en politique, c'est aussi un des thèmes abordés par ce polar, Julien Sansonnance, puisque le héros malheureux de ce roman, Alexis Roch, décide de se lancer dans la course à Genève. C'est le présentateur vedette du journal télévisé de la chaîne d'info Continu Swisscast, chaîne privée, enfin, etc. On pense tout de suite à Fatih Derder. Évidemment, les liens, on les fait assez rapidement. Lui se lance dans la course au Conseil d'État Genevois, je le précise. On a le sentiment qu'il n'a pas d'opinion politique, en fait. C'est juste une opportunité qui est là et qu'il l'a saisie.
C'est quelqu'un qui aime le pouvoir, effectivement.
Je ne parle pas de Fatih Derder, donc je précise à ceux qui nous écoutent, on parle bien d'Alexis Roch.
Bon, c'est quelqu'un qui aime aussi le pouvoir, probablement.
Mais oui, enfin, sans doute. on ne fait pas ça en le dédaignant totalement.
Non, ouais. Non, certainement. Et puis voilà, il n'y a pas de mal à ça. Mais effectivement, mon personnage est relativement cynique. Il flaire effectivement une possibilité d'augmenter sa notoriété, finalement, son assise, son pouvoir concret.
Gonfler son moi.
Oui, et puis même s'il sent qu'en tant que journaliste et présentateur vedette, il a probablement plus de pouvoir concret qu'un conseiller d'État. Hein. C'est voilà, mais il sent effectivement qu'il y a là un coup à jouer, et puis convertir un capital finalement qu'il a acquis, un capital politique, un capital médiatique précisément, ouais, en capital politique. Ce qu'ont fait certaines personnes d'ici, on peut penser bien sûr à Fatih Derder ou à Jean-Charles Simon un peu plus loin en arrière.
Mais qui a fait moins longtemps, lui.
Qui a fait une législature, sauf erreur.
Voilà, oui, exactement.
Ouais, tout à fait. Ouais, ouais.
On va s'intéresser, si vous voulez bien, à la Suisse encore, mais cette fois-ci du point de vue du décor de cinéma.
Vertigo, cinéma.
But what a place to open your eyes.
I'm going to have to leave by the end of the month for Switzerland. I'm going to miss you two for a long time.
Heck, Helen, all right.
Heck, Helen. All right.
Switzerland sounds dreamy. If you go there, you can get a Swiss watch and learn to yodel.
Ça a l'air génial, la Suisse. Je traduis l'extrait de ce film de Douglas Sirk, Magnificent Obsession de 1954. Et cette petite fille qui dit « Ah, oh, ça sonne tellement bien, la Suisse.
Si on tu peut vas yodeler. Là-bas,
on peut yodeler, puis avoir des montres suisses. » Voilà. Et si la Suisse n'était qu'un immense décor de cinéma? Question que je vous pose, Lynn Lévy.
Eh bien, vous m'ôtez les mots de la bouche.
J'en suis désolé.
Pierre-Philippe. Ou plutôt, vous ôtez les mots de la bouche de Frédéric Maire, le directeur de la Cinémathèque Suisse. Cette question-là, il l'a écrite, en fait, avec une pointe d'ironie, sans doute, dans l'introduction au livre dont tout le monde parle, ces temps-ci, Backdrop Switzerland. Ce livre, c'est une somme qui contient à peu près 350 images et parle de plus de 650 films qui ont tous été tournés en Suisse. On essaie de soulever le livre qui est archi
lourd. On n'y arrive pas. Trop lourd.
Donc je disais 650 films qui ont tous été tournés en Suisse ou qui ont utilisé l'imagerie helvétique comme toile de fond à l'histoire racontée. Alors oui, Laurel et Hardy ont bâti interpellé dans nos vertes vallées comme un Suisse lambda. Robert Redford a pris un train CFF pour aller skier au Lauberhorn. Jean Seberg a humé l'air du Léman sur un bateau de la CGN. Et last but not least, Anna Karina et Michel Subor se sont enlacés assis sous une statue de Jean-Jacques Rousseau au cœur de Genève dans Le Petit Soldat de Jean-Luc Godard. Et ce livre, Pierre-Philippe, Backdrop Switzerland, a été imaginé par l'écrivain, enfin plutôt le scénariste, oui, Cornelius Schregler, qui a passé la quasi-totalité de sa vie entre Hollywood et New York et qui est revenu en Suisse au bord du lac Léman, s'est installé dans le manoir de la veuve de Yul Brynner et c'est elle qui lui a donné l'idée de ce livre.
Alors oui, c'est juste, j'habite chez Doris Brynner, donc là la veuve de Yul Brynner sur sa propriété. Et un jour, on prenait le thé ensemble et puis elle m'a dit « Regarde, j'ai acheté un livre génial qui s'appelle Paris au cinéma ». Et lorsque j'ai vu ce livre, c'était l'étincelle en fait. Je me suis dit, mais c'est ça, voilà, exactement. C'est l'idée que je cherchais à concrétiser.
Vous étiez location scout aux États-Unis. Alors d'abord, expliquez-nous de quoi il s'agit. Et ensuite, est-ce que ce métier-là vous a aidé pour l'élaboration de ce livre ?
Ah, mais je dirais même que c'est l'origine de ce livre. Parce que en tant que location scout, vous cherchez toujours l'image idéale, le fond idéal sur lequel en fait on va mettre les protagonistes. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai voulu approcher le livre de manière beaucoup plus photographique qu'anecdotique, parce que ce livre finalement c'est un peu comme un guide de location scout. Les photos, elles racontent leurs propres histoires.
Vous écrivez dans l'introduction de ce livre, la Suisse est un concept universel, c'est un pays singulier, c'est une marque en soi. Alors, la Suisse, comme décor de cinéma, est-ce qu'elle est forcément caricaturale avec les 650 films que vous avez passés, vus pour élaborer ce livre? Est-ce que c'est vraiment l'image d'une Suisse cliché qui ressort de ce travail-là?
Bah oui, elle est très clichée. Mais moi, je vois ça comme quelque chose de positif, en fait, parce que ça amène les gens chaque année à venir faire des films ici, à trouver ces décors uniques, son Servin, ses vallées, et puis aussi ses banques, ses hôpitaux, enfin voilà, tout ce qui touche aux clichés. Mais c'est très positif, finalement. C'est ce que les gens ont envie de voir dans les films. On associe ces clichés à la Suisse et c'est un avantage par rapport à d'autres pays qui n'ont pas en fait ce genre de bagage culturel.
Est-ce que la Suisse en fait assez pour attirer à elle des tournages étrangers ?
Alors je sais que le conseiller fédéral, M. Berset, essaie d'attirer plus d'équipes ici. Et c'est vrai qu'il faut aujourd'hui se réveiller parce que la concurrence est grande. Et il y a eu toute cette polémique autour de Skyfall, où en fait l'équipe du James Bond voulait tourner en Suisse. Et finalement, les Autrichiens leur ont fait les yeux doux et ont fait des propositions concrètes d'avantages, c'est-à-dire des avantages fiscaux, des équipes de professionnels. Et tout ça, finalement, a pesé dans la balance. Aujourd'hui, ça ne suffit pas juste d'avoir de beaux paysages. Il faut venir avec quelque chose en plus. Parce que sinon, comme par exemple le film de Clint Eastwood, Hereafter, il l'a tourné à Chamonix alors que c'est supposé se passer en Suisse. Et c'est dommage, on perd des opportunités.
C'était donc Cornelius Schregler, je vous rappelle, l'édition de ce livre, Backdrop Switzerland, aux éditions L'Âge d'Homme, la Suisse comme paysage idéal pour
comme
des tournages de films, comme toile de fond de tous les films. Merci Lynn Lévy.
Merci.
Il y a également une préface, un très beau mot de notre copine Marthe Keller.
La belle Marthe Keller.
La belle Marthe Keller, la brillante Marthe Keller, qu'on salue si elle nous écoute. la Suisse, là vous la découvrez sous un autre œil, comme nous tous d'ailleurs.
Oui, alors je pensais au fameux scène de James Bond. Hein, qui sont
alors James Bond, oui.
Bah, la cover du livre, c'est une scène de James Bond.
Ouais. Ah oui, j'ai pas fait attention. Ouais, tout à fait.
Au col de la Fourca.
D'accord, superbe. Avec les scènes du... Ah oui, une belle esthétique des années 50-60, là, ouais. 60. Ouais.
C'est très, très beau.
Tout à fait, très joli, effectivement.
C'est un très beau livre, absolument. Ouais. La Suisse, terre de tournage de films. La Suisse, terre de polar, terre de littérature. On l'a évoqué tout à l'heure avec vous. On disait qu'à l'ombre de Chessé, rien ne poussait ou presque. Maintenant, c'est en train, semble-t-il, de changer. Puisqu'on continue là, dans cette idée-là, Julien Sansonnance, vous avez milité aussi pour le rapatriement au centre de Lausanne, à la Cité cité, de la fameuse fête de la cité,
oui,
de Lausanne.
Oui, oui, bien sûr.
Pourquoi ne pas... c'est comme si vous imposiez un réalisateur de film, lui dire, alors si vous venez tourner en Suisse, vous tournez au Côte de la Fourca et c'est tout. Démerdez-vous pour tourner vos scènes là-bas. N'allez pas les tourner ailleurs. Pourquoi restreindre au fond?
Parce que le Festival de la Cité me semblait être une parfaite alchimie, finalement un très très bon équilibre entre quelque chose de très populaire et quelque chose de très pointu du point de vue artistique. Et il y avait cette alchimie, il y a cette alchimie au Festival de la Cité qui me semble précieuse, fragile, et il faut faire très attention dans ces équilibres. Et j'ai senti, à tort ou à raison, mais semble-t-il un certain nombre de Lausannois avec moi, j'ai senti effectivement un certain glissement, disons, vers une vision un petit peu plus élitiste de ce que devait être le Festival de la Cité, avec une nouvelle direction qui venait de l'usine, qui est quand même pas n'importe quel lieu, disons, qui a une certaine image de la culture, tout à fait légitime d'ailleurs, mais une certaine image de la culture quand même, qui n'est pas du tout une culture populaire, qui est une culture finalement réservée à un petit milieu, hein, même si elle ne serait certainement pas du tout d'accord avec ce que je dis. Mais...
Ouais, enfin, ce n'est pas réservé à un petit milieu.
C'est pas réservé, mais disons... Alors, bien sûr que tout le monde peut y aller, mais tout le monde n'y va pas. C'est quand même...
C'est pas comme les villas partout de votre roman.
Non.
Et
non,
c'est pas cher à l'usine.
Non, mais je critique pas l'usine, mais disons, vous serez d'accord avec moi que l'usine rassemble un public relativement, peut-être pas homogène, mais particulier, underground, ouais. Mais qui est tout à fait légitime, mais je pense que c'est pas tout à fait le même public que le Festival de la Cité. Moi,
non,
je,
c'est sûr.
Mon côté peut-être conservateur et réac en devenir m'a fait penser effectivement qu'il fallait soigner ces équilibres lausannois, subtils. Ouais. Je pense que dans ces périodes peut-être, enfin je m'excuse, je veux pas dire de trop grandes phrases, mais dans ces périodes peut-être un petit peu troublées où les gens sont peut-être un petit peu désécurisés, c'est pas forcément le moment de changer ces moments qui sont des moments de communion tels que peut l'être le paléo. Je ne verrais pas le paléo organisé au patinoire du littoral de Neuchâtel. Vous voyez, les lieux ont un sens, la cité lausannoise a un sens. Elle parle au cœur des Lausannois. C'est un lieu médiéval. La ville s'est développée un petit peu là autour. Donc ça, c'est des choses qui résonnent. Vous voyez, vous pouvez pas faire autour du métro et puis dire, ah, c'est le métro, c'est super. Ça a été fait. D'autres festivals ont été faits autour du métro. Tout à fait légitime. Mais le Festival de la Cité, c'est à la cité.
Faut pas que ça devienne antigel, quoi, en gros.
Faut pas que ça devienne les urbaines, faut pas que ça devienne antigel, qui sont des festivals, encore une fois, qui ont toute liberté et toute légitimité à exister. Mais je crois qu'il faut simplement respecter aussi les... Je veux pas parler des traditions, parce que c'est un mot qui est presque un peu suspect, mais quand même, on a le droit de dire qu'effectivement, le Festival de la Cité, ça fait 40 ans que ça existe sous cette forme-là, avec un succès qui ne s'est jamais dépenti. Peut-être même trop de monde, hein, dans ces pauvres rues de la cité qui finissent par exploser tellement il y a...
On est obligé d'accrocher les pianos en l'air, c'est vous dire si...
Oui, absolument. Non, mais ce qui veut pas dire qu'il faut pas réfléchir à des aménagements, etc. Mais ne changeons pas totalement de concept. D'ailleurs, les gens ne suivaient pas. Je suis persuadé que les gens ne suivaient pas.
Alors, on va revenir au roman, si vous voulez bien, Julien Sansonnant. Ce roman, c'est Les Ordres de Grandeur, publié aux éditions de l'Air. Je voulais qu'on parle un petit peu, puisque vous avez évoqué la sociologie de l'image que vous avez pratiquée à l'université tout à l'heure. Il y a une scène, moi, qui m'a frappé. C'est lorsque le présentateur vedette est arrêté dans un hôtel. Il sort de l'hôtel et on lui met les menottes et on fait en sorte que la presse soit présente et que les menottes soient bien visibles. Ça, évidemment, ça fait penser à l'affaire DSK.
Oui, bien sûr. C'est une scène maintenant qui reste au fond de la rétine, qui fait partie de c'est comme l'effondrement des tours, hein. Ça fait partie d'une génération, de la mémoire collective de toute une génération, de ces scènes extrêmement fortes, hein, de ce DSK mal rasé qu'on expose comme ça. J'ai été frappé et choqué par cette scène comme l'ont pu l'être beaucoup de monde. Et effectivement, elle s'est presque imposée moi, j'ai pas eu besoin de réfléchir comment je vais faire. Tout d'un coup, cette scène est apparue et puis il y a eu un plaisir à la retravailler, hein, presque au point de vue culinaire du terme, c'est-à-dire de la réinventer un peu à ma sauce, mais avec cette référence forte, effectivement. Elle est tout à fait assumée, explicite. Bien sûr que les gens, je veux qu'ils voient DSK dans cette scène. Un peu pour faire réfléchir aussi, finalement, pas dans des grandes théories, mais sur le poids de l'image et le poids des symboles. Et c'est un livre que j'ai voulu riche en symboles. D'ailleurs, la couverture est pleine de symboles et je crois que c'est important à la fois en
politique.
C'est les
trompettes de la renommée ?
Non, c'est une carte du tarot de Marseille en réalité.
C'est quoi comme carte ?
C'est le jugement.
C'est le jugement.
Oui.
Le jugement dernier.
Et ce qui est sympa, c'est qu'il y a un lac au fond qui fait tout à fait penser, à mon avis, au lac Léman. Mais on peut, voilà. voilà.
Oh bah oui, avec les Alpes qu'on voit.
Avec les Alpes, et le...
on voit Evian d'ailleurs.
On voit Evian.
Mais bon, c'est tout à fait
oh,
juste.
Oh, le casino,
oui. Une toile de fond.
Julien Sansonnance, merci d'être passé nous voir.
Merci,
durant cette
grand
heure.
Plaisir. Merci.
Les Ordres de Grandeur est publié aux éditions de l'Air. Si vous voulez savoir ce que devient Alexis Roch, le présentateur vedette, lui qu'on voit sortir avec les menottes, eh bien vous lirez ce livre. Je t'en dirai pas plus.